France Inter.
Ma vie et mon œuvre, elles sont complètement emmêlées, inséparables. Donc, je ne parle pas de choses qui me sont éloignées de moins en moins. Je pense que de plus en plus, les choses se rassemblent et sont autobiographiques de plus en plus dans mon travail.
Quand tu débarques à Paris sans argent, avec plein d'envie, c'est vrai que Paris, c'est une ville qui peut être hostile aussi. Ma manière de survivre ici, ça a été de recréer une famille, quoi. Et oui, la solidarité, c'est un peu au cœur, à la fois, évidemment, de ma vie, mais aussi du... Et c'est quelque chose que j'ai envie de prolonger dans le cinéma, quoi. Comment, ensemble, on peut réussir à faire des choses beaucoup plus grandes, quoi.
Claire Tabouret est l'une de nos vedettes de l'art contemporain. Depuis une quinzaine d'années, les institutions et les collectionneurs s'arrachent son œuvre figurative, l'étoile qui représente l'humain et sa fragilité. Des enfants au regard grave, des jeunes femmes au teint livide, d'autres aux cheveux qui ressemblent à des larmes, des exilés, des lutteurs, des paysages aussi. Sommes-nous dans le réel ou dans le fantasme? Récemment, la plasticienne a réalisé les œuvres préparatoires des vitraux modernes de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui seront situés dans la nef. C'est un travail énorme, c'est un couronnement pour la peintre de 44 ans qui, depuis l'âge de 4 ans, est attirée par la peinture. Bonjour Claire Tabouret.
Bonjour.
Ces maquettes monumentales sont exposées en ce moment au Grand Palais à Paris et la polémique continue. Doit-on introduire du contemporain dans un monument historique? Dans votre grand atelier, vous avez choisi d'inviter un cinéaste et un auteur de théâtre. Bonjour Nance Laborde-Jourda.
Bonjour.
Vous avez signé 3 courts-métrages, dont Boléro, qui fut nommé au César. Vous préparez un long-métrage et 2 de vos pièces de théâtre seront présentées l'année prochaine, l'une à Aubervilliers, l'autre à Bordeaux. Bienvenue dans le grand atelier.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Je voudrais qu'on commence, Claire Tabouret, par parler de silence et de solitude. J'imagine que l'artiste que vous êtes a pour compagne dans son atelier la solitude et le silence. Écoutez ce que disait le psychologue et psychanalyste Alain Delourme. Il est l'auteur de La solitude initiatique.
Il s'agit aussi d'être cohérent par rapport à la manière dont on existe dans cette société. Donc le choix amoureux, bon, très bien, bienvenue, le choix familial, très bien, mais à condition de penser que nous sommes dans une position où nous partageons nos solitudes, et ce partage est formidable quand il est assumé, quand il est apprécié, parce que c'est vraiment très agréable de fréquenter quelqu'un qui n'est pas dans la possessivité, qui n'est pas dans le déni, qui n'est pas dans le rejet, et qui est bien avec lui-même. Et être bien avec soi-même, ça favorise bien évidemment être bien avec l'autre. Je pense même que la qualité d'une relation dépend de la qualité de la solitude. De même que la qualité d'une parole dépend de la qualité du silence.
Ce que dit Alain Delourme vous inspire peut-être, Claire Tabouret, parce que je crois savoir que trouver le silence, c'est une quête permanente chez vous.
Oui, c'est vrai que je trouve ça très beau comment il exprime cette idée du silence, de la solitude. Et je pense que ça a à voir aussi avec les personnes que j'aime, les personnes qui m'entourent, mes amis, ma famille. Ce sont tous des gens qui peuvent être seuls et je fuis les gens qui ont peur de la solitude. Je me sens souvent très mal à l'aise en leur compagnie. Le travail de la peinture, c'est moi, c'est seul. Et c'est vrai que quand j'arrive à l'atelier, ça prend toujours un certain temps pour trouver ce silence, cette qualité de silence, même dans ma tête. On a plein de voix dans la tête et donc en général, j'arrive dans mon atelier, je m'assieds et puis il y a quand même un certain temps qui passe pour calmer ces voix et trouver ce silence qui est propice.
Il faut calmer le flux qui est en nous tous.
Oui, voilà, c'est ce brouhaha.
Et une fois calme, comme après une méditation, Claire Tabouret peut prendre ses pinceaux.
Alors après, j'oublie le chemin des mots et je trouve des visions, ouais, le chemin des visions, le chemin de la couleur et après, je suis c'est plus difficile d'en parler, ce qui se passe.
Est-ce qu'on peut dire que le silence, en tout cas le silence que vous provoquez, il est nécessaire à votre rêverie?
Il est nécessaire à faire advenir ces visions, à trouver ces images en moi, oui.
Il y a des visions qui viennent et que vous tentez de restituer.
Exactement. Alors elles peuvent arriver la nuit aussi, parce que je fais beaucoup d'insomnie, donc c'est souvent des moments et Et récemment, je crois que je disais quelque chose, que ce que j'essaye de peindre, c'est ce qui reste le matin de ces visions nocturnes.
Mais ça peut être des cauchemars, alors?
Oui, mais je suis assez confortable avec des images qui surviennent.
Cette nuit, qu'est-ce que vous avez eu comme image?
Il faudrait que je les peigne. Peut-être que ce sera plus facile.
Il n'y a pas de mots.
Oui, ce n'est pas des mots, c'est plus des états d'être, des états de présence. Ce n'est pas forcément explicable.
Je vous ai découverte à Avignon en 2018, quand vous avez exposé là-bas l'été pendant le festival et quand vous avez fait aussi l'affiche du festival. C'était plein d'enfants qui nous regardaient. Et je n'ai pas oublié leur manière de nous regarder. Et vous nous happez, en fait, quand vous peignez. Ce sont des regards qui nous disent « Regarde-moi, j'ai des choses à te raconter ».
Alors oui, ça fait partie de tout un ensemble de peintures que je faisais à l'époque, où je m'intéressais tout autant à la manière qu'on a de regarder la peinture et comment la peinture nous regarde en retour. Et de se dire que c'était vraiment dans ce questionnement-là qu'il y avait quelque chose qui me fascinait.
Il y a beaucoup de visages dans vos toiles.
Oui, ouais, le portrait, j'y reviens sans cesse. Et il y a quelque chose qui m'échappe toujours, donc qui m'intéresse, c'est jamais terminé.
Comment vous expliquez qu'on se sente attrapé par ce regard? On croirait que vos toiles nous regardent.
Moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment ce que j'essaye de créer, en tout cas. C'est-à-dire que pour moi, l'art, ce qui m'intéresse dans l'art, à la fois de créer moi-même et de l'art des autres, c'est que ça pose plus de questions que ça n'apporte de réponses. Et donc, ça nous permet de peut-être de nous retrouver plus proches de nous-mêmes.
En face de vous, il y a un jeune cinéaste, vous me permettez de dire ça encore. le premier long est en préparation, mais il y a déjà trois courts qui ont été remarqués, notamment un qui s'intitule Boléro, qui aurait pu avoir un César en 2024. Il y a aussi beaucoup d'énigmes quand on regarde vos films. On n'a pas forcément d'explication tout de suite, c'est pas forcément la narration avec un début, un milieu, une fin qui vous intéresse, Nantes Laborde Jourda.
Bah, tout à fait, parce que pour moi, j'ai l'impression, le cœur de ce que je fais. Et quand je pensais à Claire avant d'arriver ici, je pensais à ça, ce qui nous reliait, c'était je pense, quelque chose d'un mystère qu'on aime prolonger dans ce qu'on fait. Et en tout cas, ma réflexion dans le théâtre ou dans les courts-métrages et bientôt dans ce qui va être mon long-métrage, c'est d'essayer de parler de ce mystère, d'essayer de... En fait, je trouve que la vie, elle est comme ça. La vie est mystérieuse. Quand on regarde deux personnes dans un café, on n'a pas toutes les explications, on est toujours... On est surpris par... La vie nous surprend tout le temps. Et souvent, je trouve que au cinéma ou au théâtre... Je vois souvent des choses qui sont trop explicatives.
Ah oui.
Donc laissez-moi de déconstruire ça le plus possible, même si ça peut perdre, mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que...
Donc Nantes Laborde Jourda rêve de faire un film sans scénario.
Oui, c'est ce que je fais un petit peu déjà, c'est très compliqué. Faire un film sans scénario, c'est presque impossible maintenant si on veut le financer. Mais en tout cas, même un scénario qui ne rentre pas dans des codes classiques est très... c'est difficilement finançable de nos jours. Parce que les gens s'accrochent à quelque chose de palpable et en tout cas à un scénario, on va dire classique, même si des fois moi j'aime regarder des choses classiques, mais c'est vrai que mon cœur ne va pas vers ça. Et c'est difficile il faut se battre, c'est un combat tous les jours d'arriver à transmettre quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'impalpable.
Oui, c'est audacieux, d'autant plus qu'il n'y a pas forcément de stars dans votre cinéma jusqu'à présent. Oui,
tout à fait.
Donc, pour trouver des financements, c'est un sacré combat.
Oui, c'est un deuxième combat, ça aussi. En vrai, j'aimerais, à un moment donné, si c'est nécessaire dans ce que j'ai envie de faire, de travailler avec des gens, des comédiens professionnels, des comédiennes professionnelles, mais c'est vrai que j'aime tellement aussi... Ça a été quelque chose de tellement fou de travailler avec ma famille, avec des non-professionnels, que ce soit dans le théâtre ou dans le cinéma, que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, qui m'est très cher.
Eh bien, on va mieux vous connaître dans cette émission, dans le Grand Atelier, Nantes Laborde Jourda, invité de Claire Tabouret. On va d'abord écouter Marguerite, qui chante Les Avions.
On savait que c'était fini, on est quand même parti dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus jolis? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli, t'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi, amour à refroidi. Je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel? Et peinture, faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé, dans le poulet se les clés, plus de traces sur l'oreiller. C'est mieux, et puis faut que je te rende tes fringues, ce sera la dernière étreinte, je ferme la porte et je me blinde. Adieu, la musique était jolie, mais le texte mal écrit, des fausses notes dans la partie.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Claire Tabouret, on va parler de votre actualité puisque vous avez été choisie après un appel à projet lancé par le diocèse et la mairie de Paris pour réaliser des vitraux dans la nef de Notre-Dame de Paris. Alors vos maquettes, il faut dire, qu'est-ce qu'il faut dire avant que les vitraux ne soient réalisés par des maîtres verriers ?
Oui, c'est des maquettes.
On peut les voir, ces maquettes en ce moment au Grand Palais à Paris. Ils tournent autour du thème de la Pentecôte.
Voilà, alors ça faisait partie de l'appel à projet, en effet. C'était de représenter l'événement de la Pentecôte, diffracté en 6 temps forts. Donc il y a 6 baies, et chaque baie déroule cette histoire. Donc il y a un côté, pour moi, assez cinématographique, dont on peut se rendre compte particulièrement au Grand Palais, parce qu'on a vraiment la possibilité de voir les 6 baies d'un seul regard, et puis de les parcourir, de cheminer dans ce défilement très horizontal de l'une à l'autre.
Et le cinéma, vous aimez ça, parce que je crois qu'au Beaux-Arts, vous avez fait une série de tableaux à partir de La Nuit du Chasseur de l'automne.
Oui, en effet, ça m'a beaucoup inspirée. Puis au Beaux-Arts, je filmais beaucoup aussi. J'avais une caméra toujours avec moi, qui était comme mon journal de bord. Et je m'inspirais de ces images filmées pour faire des tableaux également.
Vous n'avez pas eu envie d'être cinéaste comme Nantes ?
Non, je suis trop solitaire. Et puis j'ai toujours besoin de ce décalage avec la réalité. C'est-à-dire que j'enregistre beaucoup d'images, que ce soit avec mon téléphone, etc. Ça me permet de prendre des notes, mais ensuite j'ai besoin de me mettre vraiment à distance et pour pouvoir les peindre.
Claire Tabouret a parlé de besoin de solitude. Vous travaillez toujours en collectif,
oui,
dans ce Labor de Jourdain.
Ouais, c'est drôle parce qu'on se rejoint là-dessus. En même temps, c'est comme je suis un peu en négatif de toi. C'est-à-dire que moi, j'ai une sensation de solitude dans toute mon enfance, dans mon adolescence.
Dans les Pyrénées.
Ouais, dans les Pyrénées. J'ai grandi dans une petite ville des Pyrénées. Et, j'ai une enfance heureuse, à la fois très... l'inverse aussi. C'est très ambivalent, mon adolescence dans les Pyrénées. Notamment parce que c'était un peu compliqué d'être un jeune homosexuel et de l'assumer, donc il y a eu quelque chose qui a été comme une quête jusqu'à mes 27 ans et où il y a eu l'amour, il y a eu tout d'un coup et aussi la possibilité tout d'un coup, je me suis autorisé à ce moment-là à sortir de la solitude et à montrer ce que j'avais, ce qu'il y a eu en gestation pendant tout ce temps-là. Et donc depuis, j'ai l'impression d'avoir de cesse que de chercher justement le collectif pour réaliser que ce soit mes pièces, évidemment, mais aussi au cinéma, quoi, ce besoin de groupe et ne plus être seul. Et voilà.
Ah, j'aime bien l'idée du contraste et de l'inverse de Claire Tabouret.
Non, mais je dis ça, mais en fait, je passe énormément de temps seul à écrire, en fait. C'est ça qui est...
Ouais. Mais c'est vrai que dans tes films, on sent cette famille d'amis, cette famille choisie, et moi, j'ai l'impression que je le vis à travers toi. C'est-à-dire que je trouve ça extrêmement beau. Là, je regardais le court-métrage Mina, Mina, Mina. C'est comme ça. Et on sent ce groupe, cette famille, cette chaleur vraiment de l'amitié. Et ça me fait vachement de bien, mais je le vis à travers le film. Et je me dis peut-être dans une autre vie, je le vivrai en vrai, mais pour l'instant, je le vis grâce à Nancy.
Alors, Mina, ce film vit sa vie dans des festivals, j'imagine.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
En fait, Mina, c'est un film qui s'est fait un peu sur une impulsion. J'ai suivi une artiste, une jeune femme qui fait du cabaret qui s'appelle Mina Serrano et qui performait dans le cabaret d'amis qui s'appelle le cabaret Les Moches avec Axel Ibo et Carla Subovici. Et je les ai suivis pendant 3 jours sans scénario à Cannes.
Une errance.
Voilà, c'est une errance et j'ai suivi l'errance de Mina à Cannes dans un moment de sa vie où elle était un peu entre deux, elle allait déménager en Amérique du Sud et c'était une amie que j'avais envie de faire son portrait. Mais c'est entre le documentaire et la fiction. C'est une fiction même, c'est un faux documentaire, c'est un vrai documentaire, tout se mélange, mais en tout cas c'était l'idée de créer quelque chose en très peu de temps avec des amis. Ouais.
D'ailleurs vous la cadrez souvent en gros plan et j'ai pensé au portrait de Claire Tabouret. Il y a cette volonté aussi de comprendre cette personne juste en la regardant, en l'observant de près.
Alors c'est vrai que c'est un visage magnifique, le visage de Mina, et ce que je trouve très beau dans la manière que Nance a de la filmer, c'est la distance qui est juste, c'est-à-dire que c'est à la fois très proche, on est vraiment dans l'intime, et en même temps il y a assez de place pour pas écraser, pour pas simplifier, pour pas expliquer aussi, et donc c'est aussi moi la place qui fait qu'en tant que spectatrice je me sens bien dans ces films, c'est-à-dire que à la fois c'est un court-métrage qui fait 25 minutes je pense, mais qui est lent et on s'installe dans cette lenteur, on a des moments de calme, on a des moments de vide, on a des moments de silence et puis on a des moments où ça parle mais c'est pas écrasant du tout. Je trouve que par exemple dans Mina, il y a une grande mélancolie parce qu'on sent aussi que derrière la beauté, le paraître et puis le spectacle, il y a la tristesse, il y a aussi la solitude, il y a aussi la violence sous-jacente qui n'est jamais montrée, mais qui est juste dans l'air. Et on sent aussi tout l'amour que Nance porte à ses personnages. Et c'est vrai que moi, j'essaye de... Quand je peins des portraits, c'est toujours avec beaucoup d'amour, comme des caresses.
Il faut aimer les gens quand on est artiste ?
Bon, c'est pas une obligation, mais en tout cas, je pense que nous, on est ce style d'artiste-là.
On va écouter Philippe Jarouski. Je crois que vous aimez les grandes voix, les belles voix. Claire Tabouret, est-ce que vous voulez bien qu'on l'écoute ? Il est venu il y a quelques années dans le Grand Atelier. Il a invité Mathieu Chédid et ils ont fait un live ensemble sur une chanson de Mathieu Chédid.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Cette heure, t'en souviens-tu ? Ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. Cette heure, t'en souviens-tu ? L'odeur d'un matin venu d'un mari dévêtu. Un morceau de ta vie est passé. Va, et tu le retrouveras. Cet air, t'en souviens-tu ? Se perdre dans les rues, dans un son continu. Cet air, t'en souviens-tu ? Souffler le soir, souffler le soir, vers ceux qui ne sont plus. Oui, pars, et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Je m'en souviens.
comme un rêve qui m'étreint. Toute la chaleur des tiens, la douceur de sa main. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Oui, pars et ne te retourne pas. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
Claire Tabouret, vous chantez dans votre atelier ?
Ah non, pas du tout.
Non, non. Le silence, c'est la règle.
Ouais, non, puis je chante terriblement mal.
Prouvez-le. Est-ce que vos deux petites filles ont le droit de pénétrer dans cet antre ?
Oui, 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 pour l'instant, tout est mélangé. On verra comment ça évolue quand elles grandissent, mais elles sont toutes petites encore. Donc,
Et votre chien ?
Et mon chien aussi, mon mari aussi, tout le monde.
Je l'imagine immense et tout blanc. Cet
le
atelier.
Chien,
non, le chien, je ne l'imagine pas, mais l'atelier.
Je suis en train de changer d'atelier. C'est vrai que là, j'ai vécu 10 ans à Los Angeles, dans lequel j'avais un grand atelier très industriel, comme un hangar effectivement blanc. Et il n'y avait pas de fenêtres sur l'extérieur. Les fenêtres étaient au plafond. Donc ça me permettait vraiment ce côté bulle un petit peu, plonger dans soi. Mais pour le coup, là, je me réinstalle en France et je rénove un atelier qui était une orangerie du 18e siècle, au bord d'une rivière, dans la forêt, beaucoup plus petit.
Et ça va changer votre peinture.
Et ça va changer ma peinture, parce que déjà, le fait que ça soit beaucoup plus petit, ça veut dire que je serai beaucoup plus proche de ce que je peins. C'est vrai que je me suis rendu compte, à un moment donné, quand on est dans un grand hangar, on a tendance à prendre du recul. Et après, avoir un rapport qui change, on n'est plus autant dans la surface, on est vraiment dans la monumentalité, ce qui m'a plu pendant quelques années. J'ai envie de retrouver un rapport à cette surface, quasiment presque la surface de la peau.
Oui, parce que vos œuvres sont souvent assez monumentales. Les toiles sont hautes, les toiles sont grandes, vastes.
Oui, alors peut-être que les prochaines années, on va retrouver des formats plus intimes, puisqu'effectivement, tout est conditionné aussi par l'endroit où je travaille. Et régulièrement, j'ai besoin de changer mes habitudes dès que ça commence.
Oui, vous dites souvent que vous détestez le confort, ou en tout cas que le confort vous fait peur.
Alors, je changerais peut-être le mot de confort. J'utilisais confort avant, maintenant j'ai trouvé quand même bien du confort dans ma vie, et c'est pas si désagréable, mais c'est plutôt les habitudes où j'ai besoin d'être en mouvement. Donc, je me méfie toujours des recettes et des... Voilà, d'être un peu trop... Ouais.
C'est-à-dire que vous pouvez rester dans un lieu au maximum combien d'années ?
Je ne sais pas encore. J'espère que ce nouveau lieu, c'est pour toujours.
Mais ah oui ?
On verra.
Et qu'est-ce que vous ferez du confort de vie, alors ? Comment vous allez bousculer tout ça ? On parlait de travail monumental. Les vitraux, c'est forcément monumental. Comment vous avez travaillé ? Comment on passe d'un vitrail à un autre ? Enfin, en tout cas, d'une maquette à une autre, où on fait les 6 ou 7 en même temps ?
Alors non, j'ai vraiment suivi l'histoire. J'ai commencé par le premier, et puis j'ai déroulé l'histoire, et chaque baie, je l'ai travaillé entièrement, comme plongé dedans, dans un univers, dans une palette colorée particulière, dans un rythme particulier, dans des ornementations. Et ensuite, je le terminais, je passais au suivant.
Vous avez travaillé d'abord à l'encre ?
J'ai tout travaillé avec la même technique, que ce soit les toutes premières esquisses qu'on peut voir au Grand Palais, parce que vraiment au Grand Palais, je voulais inviter le public à rentrer dans ce projet qui est encore en cours, justement, qui est encore en mouvement. Et c'est assez rare d'ailleurs de pouvoir être témoin de quelque chose qui est en train de se faire. Et donc on voit les premiers jets sur papier, des sortes de croquis faits assez rapidement quand je lis le texte de la Bible, vraiment le texte sur la Pentecôte, ce qui me vient en image. Et puis ensuite, on voit les croquis un peu plus grands, réalisés en monotype aussi, qui étaient présentés au jury, sur ce qu'ils m'ont choisi. Et ensuite, on voit les grandes maquettes, effectivement, à échelle 1, qui ont été présentées à l'atelier Simon-Marc, qui sont les maîtres verriers qui vont réaliser la version en vitrail.
Comme on est à la radio, est-ce que vous pourriez décrire un des 6 vitraux ?
On va commencer par le début. Le début, ça représente les apôtres en prière. Ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Donc c'est cette phrase. La première question, c'était donc qui ? On sait que c'est les apôtres, donc les douze apôtres. Et puis ils sont en prière depuis déjà de nombreuses semaines. Donc il y a ce côté vraiment très très intérieur. Et il y a aussi l'intérieur de la maison. Et donc m'est venue la question de comment est-ce que j'allais représenter, comment est-ce qu'on allait sentir que ces personnages étaient dedans. Et puis il y a un côté historique, c'est quand même un événement historique. Alors est-ce que j'essaye de représenter une maison en m'imaginant à quoi ça pouvait ressembler, mais j'ai vite senti que c'était pas la bonne approche. En fait, ce qui m'intéresse avec la représentation de la Pentecôte, entre autres, c'est évidemment de se rendre compte que ça a été représenté de nombreuses fois avant moi, que je mets pied dans une histoire qui me dépasse, qui est beaucoup plus grande que moi, mais qu'en fait, à chaque fois qu'on regarde une représentation, ça nous apprend tout autant sur l'événement, mais sur la période à laquelle ça a été peint. Ça renouvelle quelque chose. Et donc, dans mon interprétation, dans ma version, je crois qu'on a ça aussi. On a à la fois ce côté de retracer une histoire, mais aussi de la réincarner, de la revivre dans notre présent. Et donc, cette maison, ce qui m'est venu, c'est de représenter des vitraux dans les vitraux, de remettre des fenêtres derrière les personnages. Et tout de suite, rien qu'en faisant ça, on sent qu'ils sont dedans. Et dans ces fenêtres, j'ai réinscrit comme un souvenir de ces ornementations de Viollet-le-Duc, ces grisailles dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, qui vont être déposées. Et alors, c'est pas une copie exacte, c'est plus une version érodée par la mémoire, comme si on fermait les yeux et qu'est-ce qui reste. Et elle a des formes un petit peu plus arrondies, un peu plus douces. Il y a aussi des sortes de tremblements de la main. C'est vrai que Viollet-le-Duc, c'était quelqu'un qui était vraiment passionné par la répétition, par la perfection de la répétition, l'effacement de la main par le papier peint. On se dit qu'il aurait eu une imprimante sous la main, il aurait adoré avoir une imprimante et pouvoir réaliser ces sortes d'ornementations plus mécaniques. Et moi, ce que j'avais envie de réinsuffler au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a plus un besoin de presque de l'imperfection du fait main, parce que on est capable de tout répéter, de tout réaliser parfaitement avec des machines, et qu'au contraire, pour parler du souffle, de la foi, de la spiritualité, de ces errements et de ces tremblements, il fallait que j'inscrive ça, voilà.
Sur un autre vitrail, il y a la Vierge Marie.
Alors oui, la Vierge Marie arrive au centre de l'histoire.
Une couleur orange.
Il y a beaucoup de rose, il y a du rouge, mais il faut savoir que dans chaque baie, j'ai quand même respecté une lumière neutre, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment qu'il y ait la même surface de chaque couleur. Donc même si on a des impressions qu'une telle baie est plus bleue, une autre est plus rose, si on regarde bien, on se rend compte que dans les ornementations ou dans les habits des personnages, je réalise cette balance de couleurs en ramenant des couleurs en contraste.
Vous avez certainement découvert un nouveau métier. Parce que pour préparer des maquettes pour que des maîtres verriers fassent les vitraux, c'est sans doute très différent comme technique de ce que vous faites d'habitude sur une toile.
Il fallait toujours garder en tête que je n'étais pas en train de réaliser des peintures, mais que j'étais en train de réaliser des partitions pour ces maîtres verriers, donc leur donner presque le plus d'informations possible pour qu'ils puissent travailler ensuite.
Ça, c'est nouveau pour vous ?
Donc ouais, c'était très différent, c'est beaucoup de contraintes. C'est vrai que moi j'ai toujours été vers chercher le plus de liberté possible dans ma vie, et qu'à un moment donné, j'étais à une étape où j'étais intéressée au contraire de faire ce pas de côté, de me saisir de cette histoire qui n'est pas la mienne, de ne pas être dans l'autobiographie, de me mettre au service de quelque chose, que ce soit de la religion, du bâtiment, de l'histoire, et d'intégrer toutes ces contraintes. Mais on dit souvent que plus il y a de contraintes et plus on est libre, et c'est assez vrai.
Et puis vous êtes une grosse bosseuse, Claire Tabouret.
Oui, moi oui. C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je comprends le monde, et c'est comme ça que je survis aussi.
Survie, vous diriez ça ?
Oui, parce que si je ne travaillais pas, j'aurais beaucoup de mal à trouver ma place et à faire sens aussi des événements de la vie, que ce soit personnel, de ma vie personnelle, mais de ce qui m'entoure, de la grande histoire.
Ce qui vous entoure en ce moment, c'est une polémique. Pas mal de monde est contre l'idée qu'on fasse entrer des vitraux contemporains à la place des vitraux de Viollet-le-Duc qui n'ont pas été touchés par l'incendie de Notre-Dame. Comment réagissez-vous à la violence de cette polémique ? Comment ça vous atteint ou pas ?
Ma première réaction, c'était plutôt de l'accueillir avec optimisme, de me dire c'est plutôt bon signe, c'est signe d'une vitalité de notre pays, de se dire que le grand public se saisit d'une question qui d'habitude est réservée à un public très spécialisé, c'est-à-dire notre rapport au patrimoine, comment est-ce qu'on continue à évoluer dans les monuments historiques, le rapport au vitrail, c'est une technique qu'on a beaucoup oubliée, qui était d'ailleurs en train de fermer les uns après les autres, donc là ça remet un coup d'éclairage sur cette tradition qui était florissante à une époque dans notre pays. Donc il y a plein de choses à voir d'un très bon œil dans cette polémique. Après, il faut s'en saisir pour réussir à faire qu'elle soit intéressante et qu'elle ne soit pas alimentée par des rumeurs ou des manipulations.
Vous entendez beaucoup de bêtises dites sur ces vitraux et sur votre travail ?
Je pense que beaucoup de gens jugent sans avoir vu. Moi, je n'accepte aucun avis de quelqu'un qui n'aurait pas vu en vrai, par exemple. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense que l'art, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit corps à corps. Et donc, on ne regarde pas les choses sur un écran de téléphone. Donc déjà, ça élimine, on va dire, 98% des commentaires faits à la va-vite.
Et puis, ils oublient que Matisse a fait les vitraux de la chapelle du Rosaire à Vence, que Soulages a fait des vitraux à l'abbatiale Sainte-Foy de Conques.
bien sûr.
Garouste à l'église Notre-Dame du Talent et Manessier à Abbeville, l'église du Saint-Sépulcre. C'est la vieille querelle des anciens contre les modernes.
Oui, il y a surtout une grande histoire de l'église qui fait appel à des artistes. C'est pas nouveau et donc ils ont raison de continuer, je pense. Et ils me soutiennent énormément, que ce soit l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, et les membres du diocèse qui ont travaillé sur ce programme et qui eux-mêmes ont élaboré ces 6 étapes clés de la Pentecôte, qui ont choisi le parcours aussi du visiteur dans Notre-Dame.
Nance Laborde-Jourda. Dans un autre registre, est-ce que vous avez, vous, comme ça, des polémiques autour de votre travail ? Puisque votre travail est délibérément queer, entre autres, vous intéressez à la marge, et vous avez des choses à raconter sur cette marge, puisque vous disiez « j'étais un petit garçon homosexuel, c'était pas simple dans les Pyrénées », et jusqu'à 27 ans, ça a été compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre épanouissement par votre art, vous faites face à une forme d'opposition? On vous dit ça c'est pas pour nous, ça c'est pas vendeur, ça va pas marcher.
En fait c'est jamais frontal, je pense. Je peux les voir moi sur des commentaires qu'il y a sur Boléro par exemple. Là, il y a une exposition tellement grande qu'il y a des milliers de commentaires et pour beaucoup sont homophobes parce que le film a été montré en monde entier. Donc c'est un film qui peut provoquer quelque chose, je vois, ou une incompréhension même. Pour moi, il y a deux choses qui vont se confronter. C'est-à-dire que moi, dans queer aussi, ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y a faire partie de la marge et donc de pas être dans un schéma classique. Donc de fait, en fait, ça va s'opposer à plein de choses, à plein de schémas, à plein de... Nous pouvons pas dire autre chose, on va dire c'est pas politique ou c'est alors que ça l'est, je pense profondément, de montrer des personnes queer de nos jours, même si les choses ont évolué, c'est toujours quelque chose, genre c'est quelque chose qui est important, qui pour moi il faut qu'on aille vers quelque chose de plus entremêlé, de plus c'est pas les uns contre les autres, c'est imaginer un monde nouveau où la vie est possible ensemble.
Je repense que l'air tabouret... Hein. Oui, vous vouliez dire quelque chose.
J'ai envie de rebondir, parce qu'en fait, c'est vraiment le thème de la Pentecôte. Moi, c'est ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est quand j'ai lu le texte et compris vraiment l'ampleur de cet événement de la Pentecôte. C'est vraiment, ça parle de ça, ça parle de l'harmonie entre les hommes, mais dans leur diversité. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment où on essaye justement de rentrer dans des cases et de faire que tout le monde se ressemble, tout le monde parle la même langue et tout le monde s'habille pareil. C'est vraiment comment représenter cette espérance folle qui est qu'on puisse effectivement cohabiter, coexister.
Claire Taboret, rappelez-nous ce que c'est que la Pentecôte dans les évangiles.
C'est ce retour de l'Esprit-Saint qui apporte cette force et cette possibilité de se comprendre. D'un coup, tout le monde parle la même langue. Il y a un moment béni comme ça, où il y a des langues de feu qui tombent du ciel et touchent tous ces personnages en prière. Et à partir de ce moment-là, ils peuvent répandre cette parole de respect, de paix, d'amour et d'harmonie dans une langue comprise par tous. Et donc, c'est vraiment cette idée d'une harmonie qui a une forme, et c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on n'est pas dans le désordre et le chaos, mais on est dans la... Bon, je vais répéter le mot forme, mais je ne trouve pas d'autre mot pour l'exprimer.
Chez vous, notamment dans Boléro, Nance Laborde-Jourda, il y a un moment assez libertaire, il y a des moments libertaires. Par exemple, tout le monde rentre dans ses toilettes et voit ce danseur, uniquement ses mains et ses pieds qui dansent, puisqu'il est caché par la porte, alors qu'on voit les regards chez Claire Taboret. Vous occultez le regard ici, et puis il y a plein de gens qui rentrent, et ils vont emmener ce danseur dans la nature. On va voir des rugbymen qui, sur un terrain, s'embrassent. On va voir un couple dans un supermarché faire l'amour. Plein de représentations, là aussi, qui ne sont pas ordinaires au cinéma.
Non, mais en tout cas, c'était, je pense, même l'enfant que j'étais qui avait besoin de dire ça, de dire, en fait...
C'est fantasme.
Non, c'est pas des fantasmes, c'est plus de dire déjà que l'art sauve, quoi. Genre, les livres m'ont sauvé, ma mère, on n'avait pas de télé chez nous et on lisait beaucoup, je viens d'une famille où on lit beaucoup. Quelque part, l'art a sauvé l'enfant que j'étais. Et Boléro, c'est ça, c'est un danseur qui offre ce qu'il est, ce qu'il a caché. Et tout d'un coup, il l'offre à un village et le village l'embrasse. Et par ricochet, le village s'embrase, les villageois ouvrent, libèrent leur désir, et c'est une sorte de révolution, ouais. Une révolution par l'art.
Est-ce que le mot libertaire vous convient ?
Ouais. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, libertaire. En tout cas, ce que j'y mets, ouais, ça me convient.
Moi, j'ai pensé, j'ai vu vos 3 courts-métrages, j'ai un peu pensé à Alain Guiraudy. Je dois pas être le seul, l'auteur de L'Inconnu du Lac, l'auteur de Miséricorde. Je vous propose, Claire Taboret et Nance Laborde-Jourda, de l'écouter.
J'aime bien transformer un peu la réalité des choses, inventer des nouveaux rapports entre les personnages, ouais, que ça soit pas non plus complètement conforme au réel. Et en même temps, j'aime bien quand même préserver une certaine cohérence, quoi. J'aime bien les choses improbables, mais j'aime rendre l'improbable possible, voilà. C'est plus ça qui m'intéresse, quoi, voilà. J'ai toujours parlé de nettoyer les horizons, j'ai envie de dégager des perspectives, quoi, avec le cinéma.
J'aime bien cette idée de transformer la réalité en restant cohérent, Claire Tabouret. Vous aussi, vous transformez la réalité. Quand on regarde des enfants qui sont en groupe, ce ne sont pas des enfants qu'on peut voir forcément dans la rue, c'est une réinterprétation. Quand on regarde des migrants, quand on regarde des hommes en lutte, c'est votre regard. Donc c'est déjà une transformation.
Oui, en fait, je pense que l'art nous permet de voir à travers le regard de quelqu'un et de se sentir proche. Ça crée cette proximité, cette expérience commune. Et c'est ça qui peut sauver des vies, qui peut vraiment être des mains tendues, je pense, surtout dans des périodes troubles et des périodes de grande solitude, quand d'un coup, on voit à travers le regard d'un autre et qu'on se sent compris, on se sent vu, on se sent reconnu. Moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi jeune avec l'art.
Il y a déjà une mythologie Claire Tabouret. Vous expliquez souvent, vous racontez souvent que vos parents vous emmenaient au musée et au concert, que les deux vous plaisaient énormément et que la petite fille de 4 ans tombe en amour devant les nymphéas de Claude Monet.
En extase, oui.
Vous avez envie de traverser la toile.
Oui, j'ai envie de me rouler dedans. C'est un rapport très physique. J'ai envie d'être couverte de peinture. Et depuis toujours, d'ailleurs, depuis ce moment-là, je suis couverte de peinture. Enfin,
Comme si vous aviez la foi d'un seul coup.
Oui, d'un coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand qui allait donner un sens à ma vie. Tous mes choix sont guidés par rapport à ce désir d'art et de création.
Et j'aime bien que Monet vous tienne toujours par la main.
Oui, puis j'y reviens souvent, cette idée de la matière mouvante. C'est vrai que la première vision de peinture, cette première grande émotion, c'est de la surface de l'eau. Alors après, il y a le visage, moi, qui devient obsessionnel, mais le visage, c'est une surface, comme la surface de l'eau, qui change sans cesse et nous échappe.
Oui, on n'est jamais le même chaque matin.
Exactement, et puis après, le vitrail, quand on pense le vitrail, c'est magnifique, puisque la lumière le traverse, le fait danser la couleur comme une surface d'eau, encore.
Vous connaissez ce film assez court de Sacha Guitry, l'auteur de théâtre, qui raconte son ami Claude Monet?
Ah non, je ne connais pas.
Eh bien, écoutez, Guitry racontant Monet au quotidien.
Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Sa vie d'ailleurs était la plus simple du monde. Il regardait, mangeait, fumait, marchait, buvait et écoutait. Le reste du temps, il travaillait. En somme, il ne faisait que deux choses, travailler et vivre. Il avait d'abord travaillé pour vivre, y parvenant à peine, puis il avait ensuite vécu pour travailler. Il habitait Giverny, l'hiver comme l'été, se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait ni les persiennes, ni les rideaux des fenêtres de sa chambre, et c'était les premiers rayons du soleil qui le réveillaient. Sitôt levé, il mangeait une andouillette grillée, buvait un verre de vin blanc, allumait une cigarette, et allait se mettre au travail. À midi, il était à table, à 2 heures de nouveau, il était devant sa toile, et lorsque le soleil disparaissait à l'horizon, il dînait et montait se coucher. Car il le disait lui-même, quand le soleil est couché, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?
C'est magnifique, hein, cette vie entière. Mmh. Il fait don de sa vie à l'art.
Ah, moi, je me sens très proche de cette idée. Il travaille et il vit, enfin.
Je déjeune à peine et...
Oui, peut-être juste l'andouillette que je ne mange pas le matin.
Vous n'êtes pas tellement andouillette grillée.
Au petit déjeuner, pas tellement.
Mais en tout cas, vous retournez vite travailler.
Oui. Hein, ouais.
Il y a ça dans ce que vient de dire Guitry.
Complètement, oui, oui. Tout est guidé vers le retour au travail, vers être dans son atelier et se remettre à la peinture. Puis il y a toujours cet espoir qui est que la peinture suivante sera meilleure que celle qu'on vient d'achever.
Dans un instant, on écoutera vos conseils culturels, Claire Tabouret et Nance Laborde-Jourdain. Mais je voudrais qu'on parle d'un homme qui compte forcément. C'est un milliardaire qui s'appelle François Pinault, qui découvre votre travail avec votre série Insoumis en 2013. Et il achète la majeure partie des toiles de la collection, coup de foudre. Il est depuis très fidèle à votre travail. On l'écoute.
Bien sûr, je me renseigne sur les artistes, notamment les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore connus, parce qu'il faut essayer de les découvrir. Et souvent, ils sont dans leur coin, et si on ne va pas les chercher, ils viennent pas à vous. Mais j'ai des équipes dans le monde entier qui me signalent un jeune plus ou moins talentueux, puis je regarde d'abord des photos, des vidéos, etc. Ensuite, j'essaie de les rencontrer, voilà, je prends le risque. Et dans cette exposition, vous avez vu auprès d'artistes chevronnés, il y a des plus jeunes.
Des tout jeunes, et des toutes jeunes aussi.
Des toutes jeunes, oui.
Que vous aidez, au fond, auxquels vous mettez le pied à l'étrier.
Il y a une Française qui vit maintenant à Los Angeles, que j'ai connue il y a une dizaine d'années maintenant, que je trouvais talentueuse, qui est partie là-bas à ma demande. Pour apprendre à nager, il faut se jeter dans la piscine. Je lui ai expliqué qu'à Paris, c'était bien, mais qu'on pouvait aller voir ailleurs. Elle s'est installée à Los Angeles et elle a maintenant beaucoup de succès.
Dis donc, il a de l'influence, François Pinault, sur Claire Tabouret. Parce que c'est vous, là, dont il s'agit.
Oui, 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 j'ai deviné. Effectivement, c'est quelqu'un qui a changé ma vie, qui est venu à ma rencontre, qui a pris le temps de m'écouter, de regarder, à la fois de rencontrer ma peinture, mais de me rencontrer moi, à un moment où personne ne me connaissait et où j'avais enchaîné plusieurs expositions sans vendre un seul tableau. Vraiment, je galérais. Ça faisait une dizaine d'années que je peignais et que je vivais d'autres choses que de ma peinture. Et ça a donné un coup de projecteur phénoménal à mon travail. Et comme j'ai toujours été une grande bosseuse, moi, je me suis pas du tout reposé là-dessus. J'ai continué à peindre avec ce même besoin vital.
Oui, alors c'est compliqué parce que c'est très confortable financièrement, j'imagine, d'être acheté régulièrement par François Pinault et exposé aussi par lui, donc d'avoir des collectionneurs dans le monde entier. Mais il peut y avoir aussi une forme de lien trop important et puis aussi de jalousie de vos confrères et de vos consoeurs, non ?
Oh, mais moi, je m'entoure de gens qui sont
bienveillants.
Oui, qui sont intelligents.
Et dans le métier ?
Et après, non, ça me pose pas de problème du tout. En plus, d'avoir trop d'argent, moi, je dépense tous mes sous. Donc,
vous en faites quoi de vos sous ?
J'aime beaucoup rénover des endroits. Donc, j'aime bien, finalement, cet argent, voilà, je le réinvestis dans du patrimoine français, on va dire. Et dans des artisans et dans des, ouais, dans des choses comme ça.
L'argent de l'art va à l'art.
Exactement.
On va écouter Andrea Laszlo de Simone qui chante Quando. Et on écoute vos conseils pour la semaine qui s'annonce.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
È colpa del respiro, fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca, stupida come me, e del tuo corpo che la tocca. È colpa dell'istinto agile come me, che corre sempre dritto al punto. È colpa dell'amore, ruvido come me, se ormai non voglio più. Quando
ti ricalci e spingi, cercando di guarirmi quando tu mi stringi, sei in grado di ferirmi ed io non so.
Le conseil culturel, artistique de notre peintre, ici présente, Claire Tabouret. Vous nous conseillez un disque du grand compositeur contemporain Arvo Pärt, je crois qu'il fête ses 90 ans. Il est estonien. Alors, c'est pas un disque nouveauté, c'est un disque qui date de 1985, Stabat Mater, ce qui veut dire que vous l'écoutez régulièrement.
Alors c'est une musique qu'on m'a envoyée et justement je pensais à l'amitié, à l'art et au plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est quand on lui offre d'écouter ou de lire quelque chose qui va résonner avec ce qu'il est en train de créer. Et c'est des cadeaux qui sont infinis. Et donc ça, c'est une musique que le père Maxime Dorberg, qui fait partie du diocèse à Notre-Dame, m'a envoyée pendant que je travaillais sur les vitraux. Et donc ça m'a porté et donné des ailes pour ce travail.
Vous qui êtes athée, voilà que vous avez plein d'amis ecclésiastiques.
Oui, des gens d'une grande ouverture d'esprit, plein d'amour et qui sont extrêmement intéressants.
Est-ce que ça a un petit peu bougé justement votre athéisme ou votre foi ?
Moi je me sens très liée en fait avec cette idée-là qu'on partage l'idée qu'il y a quelque chose qui guide nos pas depuis très jeune et un sort de sens plus grand à l'ensemble des événements de la vie. Alors pour moi j'ai appelé ça l'art et eux ils appellent ça la religion.
Donc vous êtes plus agnostique ?
Peut-être, mais après je pense que je suis ouverte à beaucoup de choses, je suis toujours en mouvement, donc on verra, il faudrait qu'on en reparle dans quelques années.
Vous êtes curieuse en tout cas.
Je suis curieuse et je suis ouverte d'esprit tant qu'on me respecte dans ma complexité, je respecte les autres aussi dans leur subtilité.
On entend là ce disque que ce prêtre vous a transmis, on va l'écouter un petit peu sans parler, Arvo Pärt, Stabat Mater. Le pouvoir émotionnel des voix, soprano, ténor, contre-ténor, des solos de cordes. Puis il y a aussi dans le Stabat Mater la Vierge.
Exactement.
Au pied de la croix, ça vous inspire.
Oui, oui, oui. Puis c'est vrai qu'elle m'a habité et occupé. Je l'ai peint pour la première fois et j'ai été très émue au moment de peindre la Vierge dans ce cycle sur la Pentecôte. Et c'est ce personnage central à un moment donné qui est central dans la composition. Elle est présentée d'une manière peut-être dans laquelle on n'a pas l'habitude de la voir, un peu plus extravertie, les bras ouverts, grands ouverts comme les ailes d'un oiseau. En regardant vers le ciel, en accueillant ce souffle de l'Esprit-Saint, et puis elle est aussi ancrée dans le sol, presque comme un arbre, je trouve qu'on sent sa force, cet ancrage de cette femme qui a traversé l'impensable, cette mère qui a perdu son enfant.
On sent qu'elle est vraiment en vous et encore en vous. Je me tourne vers Nance, l'aborde Jourda, cinéaste, homme de théâtre, auteur de théâtre. Vous nous conseillez un film justement qui va sortir mercredi prochain, c'est L'Englouti, qui est le premier long métrage d'une réalisatrice, Louise Aymon.
Oui, c'est un film que j'ai découvert il y a quelques jours et qui m'a vraiment bousculé et qui m'a rappelé que voilà, il y a des films qui se font en ce moment, qui sont des films, notamment là dans L'Englouti, un film d'équipe aussi, parce que genre, tout m'a bousculé, sa manière de cadrer, son casting, c'est des acteurs confirmés, aussi des non-professionnels qui sont magnifiques. Et
c'est l'histoire d'une jeune institutrice qui va bouleverser un hameau isolé dans les Hautes-Alpes, et ça se passe en 1899. L'époque est importante.
Oui, tout à fait. C'est le changement, c'est la... Il y a une promesse avec le passage on passe dans un nouveau siècle et ce passage appelle quelque chose de très mystérieux justement. Mais vraiment ce film je l'ai trouvé gracieux et mystérieux et je pense que c'est un film qu'il faut aller voir. C'est les visages qui vont me rester, c'est une lumière aussi qui va me rester, une musique qui est à la fois très contemporaine et qui fait un jeu de... Il y a une espèce de jeu avec le spectateur entre nous aujourd'hui et eux dans le siècle d'avant. Et c'est un film de montagne aussi. Il y a un autre film qui va sortir qui s'appelle Laurent dans le vent, dont je voulais parler vite fait, qui est un film, un autre film aussi. C'est comment réinventer la montagne, d'une beauté aussi. Laurent dans le vent, qui sort le 31 décembre. Et voilà, ça montre ce cinéma qui, avec des jeunes réalisatrices, réalisateurs qui... Ouais, c'est beau.
Et puis il y aura des pièces cette année, vous aurez peut-être l'occasion d'en reparler, oui, sur France Inter et ailleurs. Deux pièces que vous venez d'écrire ou que vous...
Non, il y a une pièce que j'ai quitté, la première pièce qu'on a créée avec Margot Alexandre et notre compagne...
C'est Polyester ?
Polyester, ouais. Ouais, où on invite 10 jeunes danseuses dans chaque théâtre dans lequel on va jouer. On rencontre 10 jeunes danseuses et qui... je réécris pour elles une sorte de partition et c'est... C'est sûr, encore une fois, comment on invente une série littéraire et comment cette série littéraire a changé la vie de ces dix jeunes danseuses.
Et puis la pièce qui sera présentée à Bordeaux s'intitule...
Une famille pyrénéenne.
Et là, il est question de femme de ménage.
Exactement.
Parce que votre mère est femme de ménage.
Non, elle n'est pas femme de ménage, elle travaille dans une école maternelle, mais elle a été femme de ménage. Ma grand-mère aussi a été femme de ménage. Et c'est vraiment des figures qui m'ont toujours habité. J'adore les films avec des femmes de ménage, je me suis rendu compte de ça. Et l'idée avec Une famille pyrénéenne, c'est de prendre ce personnage de femme de ménage dont on ne voit pas, parce que c'est une pastorale, c'est des spectacles amateurs qui sont donnés dans les Pyrénées, qui racontent souvent des gens illustres de la région. Et là, c'était l'idée de prendre une femme de ménage, ses deux enfants, une belle-mère, une voisine, et comment ce petit gang dans une petite ville des Pyrénées, genre pyrénéenne, peut tout faire exploser aussi.
Et c'est bien, l'art, ça permet de faire venir des gens qui ne sont pas souvent représentés aussi, parfois.
Oui, tout à fait. Et l'idée aussi, c'est de faire venir le plus de spectateurs possible qui souvent se sentent très éloignés du théâtre ou même du cinéma et de réussir à faire des formes exigeantes et en même temps qui tend la main vers...
Ouais. Vous avouez que quand vous avez rencontré Claire Tabouret, elle vous a proposé quelque chose à Los Angeles, de faire quelque chose sur votre corps.
Ouais, sur mon corps. En fait, c'est vrai que j'étais à Los Angeles, je gérais un petit peu. Je restais 3 mois à Los Angeles, il y avait tout à inventer. Et j'ai rencontré Claire qui, dans une soirée, instantanément, alors que j'étais à l'autre bout du monde, il y avait quelque chose de très familier dans son regard et dans ce qu'elle était, dans sa chair. Et souvent, tu me fais penser à quelqu'un, je ne sais pas comment dire, elle est devenue instantanément la famille. Et au-delà de ça, elle m'a proposé de mouler des parties de mon corps
en plâtre. Parce que j'étais en train de réaliser un ensemble de sculptures et donc c'était la première fois que je faisais ça à Échelin et donc je me rendais compte qu'en fait je voulais utiliser des parties de corps réelles et ensuite les assembler comme des mannequins.
Donc on a passé 2-3 jours dans son atelier qui est un endroit que j'aimais beaucoup et j'ai l'impression que c'est dans cette intimité-là.
Absolument.
Il s'est aussi joué quelque chose de notre rencontre. Et
Oui, on a tout de suite été dans l'intime, en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi ressenti ça quand j'ai rencontré Nance la première fois, que c'était comme un frère, ouais, une famille, quelqu'un que j'avais toujours connu.
Vous rencontrez quelqu'un et vous moulez son corps tout de suite.
Juste Nance.
Je ne poserai pas de questions sur les parties qui ont été moulées. Merci beaucoup, Claire Tabouret, d'être venue dans le Grand Atelier.
Merci à vous.
Vous êtes présente avec vos maquettes des vitraux de Notre-Dame qui, logiquement, seront posées à la fin de l'année 2026 à la cathédrale. Vous êtes présente au Grand Palais jusqu'à la mi-mars avec votre exposition D'un seul souffle.
C'est bien ça.
Nance Laborde-Jourda, on ira voir votre théâtre, Aubervilliers, Bordeaux, vous trouverez les
TNBA, dates. Oui.
Voilà, et puis vos films qui circulent en festival, et bientôt un long métrage qui aura donc la Palme d'Or à Cannes.
Sans doute.
Amélie Micot a réalisé cette émission, Marion Guilbeault m'a aidé à la préparer, Valentine Chédebois a programmé la musique et Sybille Clamins était à la technique. Dimanche prochain, je vous propose un best-of de l'année 2025 et puis après le journal, c'est Studio Paillettes.